Interview.
'Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au téléphone Gilles Munier. Bonjour.
Oui, bonjour Yves.
Gilles, vous êtes avec nous pour nous parler d'un concert que vous donnerez le 27 juin à l'abbaye de Léoncelle à 16h. Et donc ça s'intitule « Échappée céleste » et c'est proposé par les Quatre Temps. Donc les Quatre Temps, peut-être Gilles Munier, vous pourriez nous présenter cette formation ?
Alors Yves, les Quatre Temps, c'est effectivement un chœur qui est basé, qui répète à Autran, donc dans ce qu'on appelle les Quatre Montagnes, et qui est composé à peu près d'une quarantaine de choristes, et qui a eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir de voir arriver une nouvelle chef de chœur, Caroline Ciconello, qui est assez connue sur le pays du Vercors Nord. Elle est prof au lycée et puis elle suit aussi une carrière de soliste et de choriste dans des chœurs assez prestigieux de la région. Et puis elle est en train de terminer sa formation de chef de chœur au Conservatoire de Grenoble. Et donc pourquoi je parle d'elle ? Parce que je pense que avant tout, un chœur s'apprécie par c'est pas que sa technique vocale, mais quand même, c'est son instrument, la voix. Et d'avoir pu, depuis 2 ans, travailler sous sa direction, et donc avec tout ce transfert de technique vocale, c'est juste incroyable. Le chœur a fait des progrès juste inimaginables il y a 2 ans. Et du coup, c'est ce qui a permis à Caroline de proposer donc en septembre dernier, cette année, de travailler uniquement des chants à voix nue, qu'on appelle dans le jargon de la musique sacrée a cappella, hein, uniquement fait que pour l'Église, donc sans autre aide de la voix naturelle. Et il y avait à cela aussi un but pédagogique pour justement ne pas être sous le soutien d'un quelconque instrument, fût-il un piano, comme l'année dernière avec notre présentation. Et c'est du coup beaucoup plus compliqué parce que la difficulté, c'est que vous avez un chant, il faut tenir dans la hauteur des voix, dans la représentation. Et du coup, c'est ce qui faisait l'enjeu pédagogique. Le deuxième enjeu, c'était aussi une volonté pour Caroline de proposer une sorte de chemin autour de ce qu'on appelle les motets. Les motets, c'est des petites pièces polyphoniques qui ne sont pas forcément que sacrées, mais qui deviennent complètement sacrés à la Renaissance, qui sont issus des du monde grégorien. Et donc, en fait, vous allez voir là sur le programme l'étendue de morceaux qui vont de Hildegard de Bingen au 21e siècle, là, des gens qui sont contemporains, donc encore vivants, et donc 9 siècles à peu près d'écart, 8 compositeurs.
Vous avez présenté donc Caroline Ciconello, qui est artiste lyrique, pianiste, chef de chœur également, et enseignante à Reims et à Grenoble et à la Sorbonne. Comment s'est opéré ce choix, d'ailleurs, puisque sous-titre est celui du voyage à travers les siècles et le motet latin ? Alors peut-être parler aux auditeurs de ce qu'est un motet.
Oui, alors un motet, c'est d'abord et avant tout une petite pièce polyphonique qui, du point de vue de la musique sacrée, s'inspire, ou en tout cas vient éclairer un texte sacré. On est dans le monde chrétien, hein, donc très clairement le monde catholique chrétien, et le motet a pris ce sens. Alors, du point de vue historique, le motet, c'est les petits mots, donc c'est aussi, ça, on peut retrouver des motets laïques, enfin, en tout cas, des motets non liés uniquement à la musique sacrée. Donc, c'est beaucoup plus, finalement, complexe que ça, mais du point de vue de l'acceptation de motets et de ce petit cheminement dans l'histoire du motet latin, c'est vraiment dans son approche purement sacrée. Donc, on va retenir polyphonie sur des textes sacrés.
Vous parliez donc de cet esprit chrétien, catholique. Est-ce qu'il faut être pratiquant justement pour être chanteur de ce genre de chœur?
Eh bien, j'allais dire, est-ce qu'il faut être chrétien catholique pour aller admirer des œuvres ou des icônes dans certains musées ou au Louvre? Ou est-ce qu'il faut être catholique et chrétien pour être le souffle coupé en visitant Notre-Dame ou la Sagrada Familia à Barcelone? Je ne crois pas. Je crois que ça, c'est justement le privilège de notre temps de pouvoir, de façon extrêmement laïque, comment dire, retrouver le goût, je dirais presque même la substance de ces œuvres sans être obligé de passer par la case rituelle ou simplement croyance, que je respecte complètement, mais c'est pas le sujet d'ici. Là, le sujet, c'est vraiment une approche non pas seulement esthétique, c'est une approche extrêmement profonde, mais dénuée d'un quelconque engagement religieux.
Nous avons écouté en introduction Hildegard de Bingen, un très court extrait. Pour aussi proposer une autre écoute, nous pourrions aborder quel compositeur?
Le programme est construit et bâti sur, je dirais, deux monuments, deux chefs-d'œuvre de la musique sacrée, dans une expression de motet. On y retrouve Anton Bruckner, qui est un compositeur autrichien, un organiste virtuose, un immense symphoniste. On considère que c'est un des géants du romantisme. Et là, on va prendre sa messe. C'est une messe qu'on dit messe brève, où on retrouve un Kyrie, un Sanctus, un Benedictus et un Agnus Dei, et qui ces motets vont complètement être, enfin ces pièces vont complètement être éclatées au long du programme. Mais l'idée, c'est que on va du coup avoir une sorte de mise en lumière par d'autres sources, un peu comme dans un musée, quand vous avez différents tableaux, ben chaque tableau se répond l'un à l'autre, et du coup on peut avoir un peu plus d'appréciation des différences de chacun. Alors pour répondre à votre question, Yves, je vous propose qu'on écoute Sanctus dans cette messe, qui est la messe de Kranzstoffer, enfin la Kranzstoffer messe en ré mineur, et c'est donc le deuxième morceau de cette messe.
Au total, vous proposerez à l'écoute 16 compositions. On pourra citer d'autres compositeurs, Giovanni de Palestrina, Antonio Lotti, William Byrd, Anton Bruckner, comme vous le disiez, Joseph Rheinberger, Maurice Durufflet, Arvo Pärt et Ola Gielo. Arvo Pärt a beaucoup travaillé sur la musique sacrée, même si en parallèle il a œuvré pour des compositions plus contemporaines, voire d'illustrer des films également. Quel est ce cheminement à travers tous ces compositeurs? Est-ce que chacun amène une nouveauté d'un héritage antérieur?
Alors, c'est ça qui est extrêmement gratifiant pour nous, chanteurs, ou en tout cas choristes, c'est de voir qu'en fait, le choix de Caroline a été aussi d'aller chercher des pépites qui vont être chantées par le chœur dans ces différentes formations. Vous allez avoir des morceaux chantés en chœur d'hommes, en chœur de femmes uniquement, en petit chœur et en grand chœur. Et donc, du coup, quand on regarde un peu l'ensemble de ces compositeurs et de cette compositrice, Hildegarde, on retrouve en fait un cheminement à travers l'histoire avec des sensibilités différentes et même des pays, donc des sensibilités culturelles différentes. Prenez William Byrd, c'est le 16e, 17e siècle. William Byrd, c'est un Anglais de la Renaissance, un contemporain de Shakespeare. Il est catholique dans une Angleterre devenue protestante. Donc, ça lui met une position très particulière et on va chanter de lui deux œuvres, Ave Verum Corpus et Agnus Dei, issues de la messe à cinq voix. Mais ça va répondre aussi à alors là, pour moi, un des chefs-d'œuvre de ce concert, qui est le Crocifixus de Antonio Lotti, du 18e, enfin fin 17e, début 18e, qui lui est un compositeur vénitien, donc d'Italie, donc pas du tout la même appréciation, et qui va rendre cette œuvre que nous chantons à huit voix, et qui est juste une merveille. Donc je dirais que le choix, c'est à la fois de venir illustrer ce que c'est que le motet dans tous ses états, je dirais historiques, et de pouvoir aussi y trouver un peu des appréciations autour d'un parcours qui est un parcours plutôt là, je dirais, regroupé en termes de thèmes, alors on va dire le mot un peu spirituel, c'est-à-dire que on va avoir le thème du mystère, le thème de la passion, de la souffrance, comment ces artistes vont exprimer avec leur sensibilité, même je dirais jusqu'à ces silences qui expriment une émotion. Et c'est ça qui, pour moi, est, je dirais, au-delà de la culture et de l'histoire musicale. Je pense que les gens qui viennent à nos concerts, ils viennent peut-être consciemment ou pas, mais ils viennent pour vivre une expérience. Et c'est ça qui est génial. Parce que bah, vous pouvez avoir des frissons à écouter quelque chose que vous écouterez jamais ailleurs que là. Un Crocifixus à huit voix. Bon, vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas catholique, vous n'avez pas de... Et pourtant, vous êtes touché par ça. Bah, c'est ça l'invitation et le fait d'avoir recruté, entre guillemets, l'ensemble de ces personnages de la musique avec ce parcours. Je vous dis, hein, il y a, je crois, 8 compositeurs sur 9 siècles. Donc, c'est incroyable de voir cette continuité du rapport à des thèmes très humains. Je dirais l'amour, mais l'amour avec son côté aussi transcendantal, les rapports à la souffrance, à la passion, donc la mort, et puis la lumière, donc cette recherche de lumière qu'on voit finalement traverser tous ces siècles.
Vous-même, Gilles, êtes chanteur?
Alors évidemment, c'est un chœur amateur,
oui.
À part Caroline, qui évidemment est une professionnelle du chant. Je suis amateur, alors personnellement, j'ai eu la chance d'être dans une famille où ça chantait. Je crois que quand j'étais dans le ventre de ma maman, ma maman chantait dans une chorale. Donc c'est peut-être ça qui expliquait qu'assez rapidement, je me suis tourné vers cette pratique-là. J'ai arrêté aussi pendant longtemps aussi. J'ai eu, je crois, 20 ans d'arrêt. Et je suis très heureux en étant sur un plateau du Vercors quand même. On pourrait dire que l'offre culturelle n'est pas si importante que dans les grandes villes. Bah pour autant, on a la grande chance d'avoir des gens de grande qualité, et je pense que Caroline en fait partie. Et j'ai la grande passion qui est revenue pour chanter. Alors moi, je suis entre le pupitre basse et ténor. Et voilà, je ne sais pas si j'ai tout répondu, mais l'idée, c'est que oui, moi, je suis passionné par cette musique. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'écoute que de musique classique, bien au contraire, j'adore le silence et j'adore toutes les musiques.
Justement, ces chants laissent la place au silence parfois. Et pourquoi enfin, sur 9 siècles, est-ce que ces chants sont en latin, hein, même avec Arvo Pärt, les titres sont repris. D'ailleurs, ces textes sont des créations de ces auteurs, ou alors ce sont des textes qui existaient et qui sont repris, hein, par ces compositeurs pour être mis en chant?
Oui, c'est ça. Ben, vous prenez une messe, c'est toujours, hein, je dirais, on est là un petit peu dans une représentation avec des contraintes. La contrainte, c'est que le motet, c'est de la musique, c'est la mise en musique d'un texte dit, entre guillemets, sacré, ou en tout cas qui vient d'une trace de liturgique, etc. Donc, effectivement, l'ensemble de ces pièces, vous prenez celle de Hildegard de Bingen, c'est effectivement une ode Ave Generos à la Vierge Marie dans cette acceptation. Vous prenez le Sicut Servus, c'est la reprise d'un psaume. Vous prenez Antonio Lotti Crucificius, c'est le cri de il est crucifié. Donc c'est très très effectivement fléché vers cette histoire, cette histoire assez étrange, mais qui perdure à travers les siècles. Alors pourquoi le latin? Ben, je dirais, moi, je répondrais le latin, pourquoi pas? Parce que je me faisais la réflexion récemment, justement, parce que j'ai quelques interviews, et je me disais, mais c'est assez étrange d'imaginer dans 8 siècles, Sting, je sais pas, Bob Marley, Madonna, qui sait qu'il pourrait y avoir Pink Floyd, et d'imaginer que ces gens ont chanté dans une langue qui était totalement la langue de tout le monde à l'époque, et qui d'un coup n'est devenue que parlée par quelques personnes, parce que c'est des personnes qui ont ce goût pour l'histoire. Et je me disais que ça serait assez étonnant de se rendre compte que finalement, un Bob Marley deviendrait un... écouter du Bob Marley, ça deviendrait écouter un truc qui est très élitiste, etc. Et donc, je trouve que là, il y a un biais d'approche. Il faut se rendre compte qu'en fait, pendant très longtemps, ce latin a été parlé comme j'imagine que les ressortissants du Maghreb parlent l'arabe classique. C'était peut-être une langue assez écrite, assez construite, mais mine de rien, elle était aussi utile. Donc déjà, c'est aussi faire honneur à ça, faire honneur à cette langue qui est dite morte, mais en fait qui est très vivante quand on la fait renaître par la vibration du chant. Voilà, pas plus. Et après, évidemment, c'est la composition. C'est les thèmes, c'est un parcours du motet latin dans une acceptation spirituelle, on est d'accord.
Nous écoutons un autre extrait, celui de Giovanni da Palestrina, qui propose donc Sicut Servus. Nous écoutons cet extrait et nous en reparlons ensuite. Sicut Servus desiderat Oh. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce compositeur?
Ah, c'est une merveille. C'est une merveille à chanter. On a la chance de le chanter en petit chœur. Et bon, je crois que c'est un des motets les plus célèbres de toute l'histoire de la musique. Ce texte, si vous voulez, compare l'âme humaine à un cerf cherchant une source d'eau. C'est-à-dire que cette âme humaine qui est un peu en privé, je dirais, d'une paix intérieure, il y a quelque chose qui est un peu dans les états un peu du chaos intérieur et qui aspire à une tranquillité, à une paix. Et en fait, le chant va venir évoquer par la musique, enfin par la mise en voix, cette idée du cerf qui crève de soif et qui veut chercher de l'eau. Bah, c'est un peu l'idée de cette âme qui cherche, entre guillemets, Dieu, mais on pourrait mettre plein de choses derrière ça, qui cherche en tout cas quelque chose, une aspiration, une sérénité. Et c'est une merveille à chanter. Je n'en dirai pas plus. Venez nous écouter, vous verrez. C'est sublime. Ouais. Je ne peux pas dire autre chose.
Ce travail opéré avec Caroline Ciccolello a pris combien de temps pour proposer ce spectacle?
Oui, alors c'est là où ça devient une gabegie. C'est que ben on a préparé ça en 8 mois, quoi. Donc le travail est un vrai travail consistant. Tout n'est pas chanté par le grand chœur, ce qui permet aussi d'avoir permis à des gens de la formation Les Quatre Temps qui se sentaient un peu plus concernés et peut-être plus véloces dans l'approche et la découverte des morceaux, bah, d'aller aussi pouvoir présenter. Je crois qu'on chante quatre. Oui, c'est ça. On chante quatre pièces avec le petit chœur. Donc on a permis aussi de mutualiser l'effort. Mais c'est vrai qu'on a pris une année pour préparer ça. Et c'est on a, je crois, on a tous un peu la réflexion que ce programme est tellement beau qu'il est possible qu'il ait sa propre vie. C'est-à-dire que peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on chantera encore à certaines occasions. Peut-être en formation petit chœur, en grand chœur, on verra. Mais il est certain que quand vous préparez, que vous mettez autant d'efforts à chanter, à préparer ça, c'est presque frustrant d'imaginer qu'on va le chanter que 4 fois, quoi.
Juste par rapport à ces propositions musicales, sont-elles établies sur partition? Et pour celles-ci, est-ce qu'elles ont une évolution que l'on peut constater dans l'écriture, dans la proposition aussi? Est-ce que, ayant travaillé avec ces partitions, j'imagine, ou alors est-ce que Caroline aussi est intervenue hein, dans son interprétation?
Alors là-dedans, j'entends deux questions, c'est-à-dire qu'à la fois il y a effectivement la question de l'écriture initiale, c'est-à-dire dans quel langage musical ont été écrites les partitions initiales. Bah, si on prend Hildegard de Bingen, il est sûr que si on regarde, si j'imagine, ces partitions, on sera plutôt sur l'écriture pneumatique grégorienne, donc on n'est pas encore sur la portée, etc. Puis après, évidemment, dès qu'on est sur la Renaissance, on a déjà les portées qui sont là, etc. Donc ça, c'est la première approche. Par contre, moi, je voudrais parler d'une chose qui me paraît très importante et qui est permise par la technologie aussi embarquée sur nos smartphones, sur nos PC, etc. C'est que pour apprendre ces œuvres, eh ben, nous avons parmi nos choristes pas du tout que des gens qui sont musiciens, qui connaissent le solfège par cœur, etc. Mais enfin, je pense à une femme qui a fait de la, qui a été soliste l'année dernière sur un morceau, qui ne connaît rien de la musique. Rien du solfège et qui n'apprend que tout ça par cœur. Alors pourquoi c'est possible? Bah, c'est que toutes les voix au moment où on arrive en septembre, vous avez ce qu'on appelle un padlet. Et le padlet est constitué, ben, de la possibilité d'écouter le morceau qu'on va chanter. Donc vous pouvez le chanter dessus si vous voulez. Et vous avez chaque pièce, donc en soprano 1 ou 2 si c'est de doublé, en alto, en ténor ou en basse, qui sont donc chantées par Caroline pour pouvoir chacun apprendre sa partition. Donc, si vous n'êtes pas musicien et lecteur, comme on dit, bah, vous pouvez tout à fait vous faire des séances simplement à l'oreille, d'écouter votre partition. Et c'est très intéressant parce que ça permet du coup de démocratiser un peu cette approche de ce type de musique où souvent, bah, c'est effectivement, vous ouvrez une partition. On n'est pas en Angleterre. Moi, j'ai habité en Angleterre où les gens ouvrent la partition et ils ont tellement appris ça quand ils étaient jeunes que vous prenez un Requiem de Mozart, ils ouvrent la partition et quasiment ils chantent la partition de Mozart. Pour l'avoir chantée, c'est quand même pas c'est pas facile. Et voilà, donc on n'a pas forcément cette histoire commune aux Anglais par rapport au fait de pratiquer très, très jeune le solfège dans un cadre, dans un cadre de pratique simplement loisir. Mais pour autant, ça permet à beaucoup de gens de pouvoir chanter et de se faire plaisir.
Approchons de la fin de cette émission. Donc, je le rappelle, ce sera le samedi 27 juin à 16h à l'abbaye de Léoncelles. Et autour de cette date, il y en a d'autres. Celle du vendredi 26 juin, ce sera à l'église de Lons-en-Vercors à 20h. Et à la suite, donc vendredi 3 juillet, ce sera à l'église de Villard-de-Lans à 20h. Et samedi 4 juillet, à l'église d'Autran à 18h. Pour se renseigner aussi, je crois que vous avez un site ou une adresse de manière à vous joindre, c'est contact@choral-du-6-les-quatre-temps.fr.
On peut aussi me joindre au 06 51 99 41 55. Voilà, c'est aussi une façon de pouvoir se renseigner sur nous. Voilà, et puis on cherche des lieux pour l'automne. Donc si des gens ont comme ça en tête une église qui sonne bien et qui pourrait recevoir 100-150 personnes, bah, ça pourrait nous intéresser.
Nous allons nous quitter avec un dernier extrait, celui de Maurice Duruflé, avec quatre motettes sur les thèmes grégoriens.
Alors, je crois que ce qu'on va écouter, Yves, c'est l'extrait de Ubi Caritas, et fait partie effectivement des quatre motets où vous avez Tota Pulchraes.
Gilles Munier, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous présenter donc ces quatre concerts donnés sur le plateau du Vercors, hein, on pourra dire. Et puis, sachant que pour la rentrée, on aura aussi l'occasion de vous entendre à l'abbaye de Valcroissant.
Il est
Merci.
voilà, il est fort probable qu'on puisse venir chanter là-bas, c'est en cours, mais voilà, c'est une info. Moi, je voudrais juste terminer, Yves, pour dire que qu'on soit amateur de musique classique ou simplement curieux, moi je vous invite à venir en particulier dans cette abbaye de Léoncelles. Il y a quand même pas mal de réservations, donc il y a aussi le site Hello Asso. Vous tapez chorale les quatre temps et vous trouvez aussi la possibilité d'accéder à une billetterie en ligne. Pourquoi l'abbaye de Léoncelles? Parce que d'abord l'acoustique y est formidable, et puis aussi il y a cette histoire cistercienne qui fait qu'il y a une sorte de silence qui est quand même assez magique sur le coin. Et je dirais aussi que les échappées célestes, notre programme, c'est une invitation à ralentir, donc à l'expérience de se laisser porter pendant un moment hors du temps. Je crois qu'il y a peut-être des petits moments de grâce qui nous attendent. Et nous, en tout cas, on le vit comme ça. Je peux vous dire qu'au début de l'année, ce n'était pas gagné. Beaucoup de gens ont dit, oh là là, c'est quoi ça? Ça va être barbant. Et quand vous regardez là aujourd'hui comment tout le monde est passionné par ce qu'on chante, c'est que ça vient nous toucher tous un peu dans l'émerveillement de cette musique qui n'a pas finalement, qui n'a pas de temps. C'est peut-être ça la phrase de conclusion, c'est que c'est une musique quasiment atemporelle à travers l'histoire de ces 8 compositeurs.
Bonne soirée à vous, Gilles.
Merci beaucoup, Yves, pour votre invitation. Et donc, ben, je salue toutes vos auditrices et vos auditeurs.